Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel. Elisabeth Couget
et Christina Fota
vous présentent Capital. Aujourd'hui, nous partons pour Rome, la ville éternelle, une des plus belles villes du monde.
Sûrement, une ville inoubliable, car pendant des milliers d'années, Rome est au cœur du monde. C'est d'abord le centre somptueux du vaste empire romain, la capitale du monde, Caput Mundi, et puis le siège de la papauté.
En gros, que pouvons-nous dire de cette ville ? Parce qu'on ne peut pas tout dire, malheureusement.
C'est un ensemble extraordinaire de rues historiques, de ruines antiques, de palais, d'églises, de chefs-d'œuvre de l'art.
Ah, bien sûr, nous savons tous que Rome est la capitale de l'Italie, puisque c'est notre émission, mais elle se situe où exactement ?
En Italie centrale, en Ombrie, à une vingtaine de kilomètres de la mer, sur 7 collines, ce qui est une situation stratégique. Et Rome est la capitale de l'Italie depuis 1861.
Alors, certainement après la bataille de Solferino. Mais retournons à la naissance de Rome, à la Rome antique.
C'est d'abord le fruit des peuplements étrusques, latins et sabins, sur les monts Palatin, Esquilin et Quirinal.
Alors, peux-tu nous parler un peu des Étrusques ? Enfin, juste un petit peu.
Un petit mot. Alors, le dernier roi étrusque, qui s'appelait Tarquin le Superbe, meurt en 509 avant Jésus-Christ. Et c'est alors le début de la République romaine qui devient peu à peu la puissance incontestée du monde occidental. Après avoir défait les Étrusques au nord d'une part, les Grecs et les Carthaginois au sud, on se rappelle, il faut détruire Carthage.
C'est des classiques tout ça. C'était un système politique quasi démocratique, n'est-ce pas ?
Mais oui, et qui nous inspire encore aujourd'hui, avec un Sénat et une Assemblée. Le sigle SPQR signifiait Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple de Rome. C'est alors qu'on voit se construire des routes comme la Via Appia, une voie d'accès à la mer, le port d'Ostie, ainsi qu'un réseau complexe d'aqueducs.
Qui était le plus célèbre romain ? Peut-être pas le plus grand, mais celui qui est vraiment tout le monde connaît de par le monde.
Le début du 1er siècle voit bien sûr l'ascension, du 1er siècle avant Jésus-Christ, voit l'ascension de Jules César, qui devient dictateur à vie. César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, la lutte pour le pouvoir s'intensifie. Octave devient en 27 le premier empereur sous le nom d'Auguste.
Alors, suit ensuite une période de stabilité, d'épanouissement des arts. Mais en 64, une incendie dévaste la ville qui dure une semaine. Néron accuse les chrétiens et en fait exécuter un très grand nombre, dont Saint-Pierre et Saint-Paul.
Exactement. Après un très long moment de Pax Romana, le déclin s'amorce au IIIe siècle. Des invasions barbares et puis aussi le partage de l'Empire entre Orient et Occident.
Et Constantin arrive quand au trône ?
En 312, Constantin accède au trône, il légalise le christianisme, mais il transfère la capitale de l'Empire romain à Constantinople en 330. Constantinople est une ville qu'il a fondée, d'après le nom de Constantin. C'est la nouvelle Rome qui deviendra Byzance, puis Istanbul, signant ainsi la ruine de Rome qui, un peu plus tard, est mise à sac par les Goths en 410.
Alors en gros, on peut parler de 8 siècles d'hégémonie romaine.
Ce qui est très long. À son apogée vers l'an 100, l'Empire romain s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord, de la Syrie à l'Espagne. Rome comptait plus de 1,5 million d'habitants et était vraiment le fleuron de la splendeur impériale.
Et si nous nous promenions un peu dans la Rome antique ?
Bien que les sites à découvrir soient surabondants, le centre historique de Rome est peu étendu. Rome est une ville qui se visite à pied.
Alors on peut, ou bien peut-être en Vespa, comme Gregory Peck et Audrey Hepburn dans le film Vacances romaines.
C'est dans le cœur antique de la ville qu'on trouve les vestiges les plus impressionnants.
Alors commençons peut-être par le Colisée.
Plus que tout autre monument de Rome, le Colisée symbolise la puissance et la splendeur de la Rome antique. C'est un amphithéâtre de 50 000 places. C'est ici que pendant 5 siècles, les gladiateurs s'affrontaient parfois à mort et que les condamnés étaient jetés en pâture aux fauves. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie qui a inspiré non seulement tous les amphithéâtres romains postérieurs, mais également les stades de notre époque. Inauguré par Titus en 80, avec des jeux qui ont duré 100 jours et 100 nuits. C'est une construction de 3 niveaux d'arches superposées, et ces 3 niveaux présentent les 3 ordres de colonnes dorique, ionique et corinthienne, et les arches d'entrée permettaient aux spectateurs de prendre place en quelques minutes. L'arène avait un plancher en bois recouvert de sable pour absorber le sang des gladiateurs.
Oh. Alors, comment le public était placé au cours des spectacles ?
Il y avait 3 niveaux de gradins. En haut, ou plutôt, non, en bas, les magistrats et les nobles. Mm-hmm. Deuxième gradin, les riches citoyens. Mm-hmm. En haut, le peuple et les femmes aux places les moins chères.
La misogynie existait déjà. Quels sont les monuments dans les alentours ?
Alors, près du Colisée, on trouve l'arc de Constantin, 312, qui célèbre donc sa victoire contre l'empereur Maxence. Et puis le Forum romain, qui est un grandiose ensemble de temples couverts de marbre, qui était également la place de Rome, où le peuple s'assemblait, un centre religieux, le véritable centre de la vie publique. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines impressionnantes, avec entre autres la colonne de Trajan, qui fait 30 mètres de haut, parfaitement conservée, l'arc de Septime Sévère, ou encore l'arc de Titus, qui inspira l'arc de Triomphe à Paris. L'arc de Titus fut construit en 81, après Jésus-Christ, pour célébrer la victoire contre les Juifs rebelles de Jérusalem. Autrefois, les Juifs romains évitaient de passer sous l'arc, symbole des débuts de la diaspora.
Et le Forum a-t-il la plus ancienne partie de Rome ?
Alors non, ce n'est pas le Forum, c'est le Palatin, sur une autre colline, qui est le quartier le plus ancien. C'est une des collines de Rome, la plus anciennement habitée depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est là, dit-on, que Romulus fonda Rome en 743 avant Jésus-Christ. On sait que Romulus et Rémus étaient des jumeaux abandonnés, nourris par une louve, le symbole de Rome. Romulus s'imposa et donna son nom à la ville. Le Palatin était autrefois un quartier aristocratique sous la République romaine, et puis il devint sous l'Empire la résidence des empereurs, ce qui fait qu'on y compte de très importants vestiges. Signalons d'ailleurs au passage que le mot palais vient du latin palata.
Je crois que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui, hein. Et alors, je vais parler des jardins de Farnèse, où il y a une vue époustouflante sur le Forum romain. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier un autre site de la Rome antique qui se trouve sur la colline de l'Aventin. Je vais parler des thermes de Caracalla.
Les thermes de Caracalla, un immense ensemble thermal parmi les plus belles ruines de Rome. Au IIIe siècle, ces thermes de 10 hectares accueillaient 6 à 8 000 personnes par jour. Et compter des bains, des gymnases, des bibliothèques, des jardins. C'était l'Odyssée x10.
Alors pendant que nos Romains s'amusent et barbotent dans les thermes de Caracalla, je vous propose une courte pause musicale.
Thank you.
Merci de nous écouter sur Radio Grand Ciel, où notre émission Capitale nous fait découvrir Rome aujourd'hui. Après avoir parcouru une partie de la Rome antique dans la première partie de notre émission, Christine va nous guider dans le centre historique de Rome. Alors commençons notre promenade par le Panthéon.
Alors le Panthéon qui était un temple jadis dédié aux dieux, d'ailleurs d'où le nom de panthéisme. Avec le Colisée, le Panthéon est un des emblèmes de Rome. Il est bâti par l'empereur Adrien, peut-être avez-vous lu les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Donc il est bâti par l'empereur Adrien en l'an 120 et il a gardé une structure intacte. Il a été transformé en église le 1er novembre 609. Et c'est aussi un des monuments qui a le plus influencé l'architecture occidentale. Sa coupole gigantesque est la plus importante réalisation architecturale de la Rome antique. C'est une demi-sphère parfaite de 43 mètres de diamètre. Son oculus central, ouvert sur le ciel, servait à la fois à éclairer l'espace intérieur et à créer un lien symbolique avec le monde des dieux. Le 21 juin, à midi, le soleil traversait l'oculus et l'empereur paraissait alors triomphalement dans un halo de lumière.
C'est comme à la cathédrale de Chartres, mais sans l'empereur. Ici, plus prosaïquement, cela servait à mettre à l'heure les horloges de la cathédrale.
Oui.
Alors, oui, sans blague, que voyons-nous autour du Panthéon encore ?
Des places opulentes et animées, des terrasses de café à n'en plus finir, des palais ornés de fresques, plus quantité de monuments, musées, églises, dont beaucoup abritent de grands artistes, tels Michel-Ange, le Caravage, le Bernin.
Alors au hasard du chemin, on va se retrouver au cours de notre promenade sur la Piazza Navona.
La place Navona, une des plus belles places de Rome, avec la fontaine baroque extravagante des quatre fleuves, Quattro Fiumini, chef-d'œuvre du Bernin. Le Nil, le Danube, le Rio de la Plata, le Gange, représentant, au XVIIe siècle, les quatre continents déjà connus.
Alors, Rome est au sud de l'Europe, donc il fait beau. Les fruits doivent y abonder.
Particulièrement au Campo dei Fiori, au champ des fleurs, et son marché coloré où les étals débordent de fruits, de fleurs, de légumes ou de poissons. Arrêtons-nous peut-être devant le palais Farnèse, qui est un palais Renaissance et qui abrite des fresques qui valent, dit-on, celles de la chapelle Sixtine. C'est le siège de l'ambassade de France. Et à propos de France, faisons aussi un détour par Saint-Louis des Français, une église baroque, célèbre pour ses trois tableaux du Caravage sur la vie de Saint Matthieu et qui provoque un effet saisissant d'ombres et de lumière.
Rome est aussi célèbre pour ses places pleines de charme, de vie, de caractère, où il fait bon déambuler, prendre un café, un cappuccino ou une glace, comme par exemple sur la place d'Espagne.
À côté de l'ambassade d'Espagne, de la place monte un monumental escalier de 135 marches vers l'église blanche de la Trinité des Monts. À la mi-avril, les marches sont décorées de près de 600 vases garnis d'azalées aux couleurs éclatantes.
Et alors, quand il n'y a pas de fleurs, ce sont les mannequins qui illuminent ces marches en y défilant dans de jolies tenues de haute couture. Et pour revenir à l'église de la Trinité des Monts, en haut de cet escalier, comme l'église Saint-Louis des Français, cette église aussi, elle est française. Construite sur l'or de Louis XII, mais elle n'a été consacrée qu'en 1585. De l'extérieur de l'église, la vue sur les toits de Rome est sensationnelle.
À propos des places, ne manquons pas, Elisabeth, de dire un petit mot sur la Passeggiata. La Passeggiata est en Italie ce qu'est le Paseo en Espagne. Chaque soir, les Romains de tous âges se promènent dans les rues, sur les places, entre 17 et 20 heures. L'idée est de flâner sans but, pour voir et être vu, bavarder entre amis, observer les autres. Autrefois, la Passeggiata était un moment où les jeunes gens avaient le droit de faire leurs cours. Les parents encourageaient leurs filles en âge de se marier à revêtir leurs plus beaux atours. Aujourd'hui encore, et surtout le week-end, les rues sont envahies de familles, d'amis et d'amoureux.
Alors approchons-nous d'une autre place, la Piazza de Trevi, Et arrêtons-nous devant la plus grande et la plus célèbre fontaine de Rome.
L'impressionnante fontaine de Trevi. Et son ensemble incroyable de personnages mythologiques comme Neptune, de chevaux sauvages et de cascades est une œuvre de Nicolas Salvi qui date de 1732. La tradition veut que l'on y jette une pièce pour être assuré de revenir un jour dans la ville éternelle. Si on en jette deux, on tombera amoureux d'un Italien ou d'une Italienne. Pour trois pièces, c'est le mariage assuré. 3 000 euros en moyenne sont collectés par jour et reversés entièrement au Secours catholique.
Mais c'est une excellente façon que de remplir les caisses du Secours catholique.
Plus loin, sur la colline du Quirinal, l'atmosphère change. Ce ne sont que palais sublimes et imposants. La place du Quirinal, devant le palais présidentiel, est un des meilleurs endroits pour admirer Rome au coucher du soleil. Le ciel se pare alors d'une éclatante teinte dorée et illumine les couleurs chaudes de la ville romaine, jaune, ocre, crème. Sous les yeux, c'est l'océan des toits, jusqu'à la lointaine coupole de la basilique Saint-Pierre.
C'est un vrai tableau que tu nous as décrit là, hein, Christine.
C'est magnifique.
Est-ce que tu peux nous indiquer quelques églises à visiter?
Bien sûr. Longtemps, l'Église a dicté sa loi à Rome, des premières basiliques au chef-d'œuvre du baroque et de la Renaissance.
Alors, visitons d'abord la basilique Saint-Jean de Latran.
Qui est consacrée en 324. C'est la première basilique chrétienne de Rome. Et c'est le principal lieu de culte des papes jusqu'au XIVe siècle. Aujourd'hui, c'est la cathédrale officielle de Rome. Selon l'inscription latine qui orne sa haute façade, elle est aussi la mère de toutes les églises de la ville et du monde. Elle est érigée par Constantin et fut le théâtre d'événements historiques, comme le baptême de notre empereur Charlemagne en 774. L'intronisation des papes y eut lieu jusqu'au XIXe siècle, ainsi que les accords de Latran en 1929, passé entre le Saint-Siège et Mussolini, qui établissent la pleine souveraineté du pape sur l'État du Vatican.
Alors, à côté, il y a le palais de Latran, qui fut pendant 10 siècles la résidence des papes, il me semble, c'est ça, hein ?
Exactement.
Et n'oublions pas, en haut de la nef, un spectaculaire baldaquin gothique qui renferme les reliques de Saint-Pierre et Saint-Paul.
Et à gauche de l'autel s'ouvre un ravissant et paisible cloître du XIIIe siècle qu'il ne faudrait surtout pas manquer.
Alors, après avoir vu toutes ces églises...
Oui, malheureusement, on n'a pas vu tellement d'églises, mais on n'a pas le temps de tout vous montrer.
Alors, on va peut-être aller voir la Via Appia rapidement.
Alors, allons-nous promener sur la Via Appia. C'est une voie, une artère magnifique qui a été achevée en 190 avant Jésus-Christ. Elle est flanquée de champs verdoyants, de ruines antiques et de pins élancés. C'est une belle promenade chargée d'histoire, car c'est ici que 6 000 esclaves rebelles, compagnons de Spartacus, furent crucifiés et que les premiers chrétiens enterrèrent leurs morts dans les catacombes.
Et après toutes ces visites, il est temps peut-être d'aller s'attabler, je commence à avoir faim.
À une trattoria,
oui, pourquoi
pas.
Avec
la nonna, c'est-à-dire la grand-mère, au fourneau, pour déguster, voyons, des spaghettis à la carbonara, ou bien une saltimbocca, une escalope de veau au jambon, des artichauts frits, des beignets de fleurs de courgette.
Pourquoi pas, et tout ça nous mène l'eau à la bouche. Faute de pouvoir déguster ces bons plats, écoutons un peu de musique italienne, bien sûr.
Thank you.
sommes aujourd'hui dans cette troisième partie de notre émission Capitale. Et nous continuons la découverte de la ville éternelle. Je crois qu'on peut encore juste citer rapidement deux églises avant de traverser le pont sur le Tibre. Donc je veux parler de l'église Saint-Paul hors les murs.
Oui, alors évidemment, il y en a tellement, mais il y a deux églises à ne pas manquer. Saint-Paul hors les murs, c'est-à-dire en dehors en fait de la ville ancienne, basilique monumentale qui est la troisième plus vaste au monde, édifiée sur le site où Saint-Paul fut inhumé. Et une autre église ravissante, Sainte-Marie in Trastevere, construite au début du IIIe siècle et qui est sans doute le plus ancien lieu de culte marial de Rome.
Ah oui, alors, il était dommage de ne pas en parler quand même. Alors, traversons maintenant le Tibre par le pont Saint-Ange, tout près du château Saint-Ange.
Cette imposante forteresse est l'ancien mausolée d'Adrien et a été nommée ainsi car l'archange Saint-Michel aurait apparu en 590 au sommet de la citadelle sous les yeux du pape Grégoire le Grand, mettant fin à la terrible épidémie de peste qui sévissait à Rome. En 1277, on relia la forteresse au palais du Vatican par un passage secret qu'emprunta le pape Clément VII lors du sac de Rome où il fut obligé de s'enfuir en 1527.
Et oui, c'était Charles Quint qui a détruit la ville. Hein. Alors dirigeons-nous maintenant vers le Vatican, et quel est le plus petit état du monde, il me semble.
0,44 km².
Ah oui, c'est pas grand.
Mais d'un point de vue spirituel, artistique et aussi touristique, c'est une superpuissance. Le Vatican fait suite aux états pontificaux qui régnaient sur Rome et une partie de l'Italie centrale jusqu'à l'unification de l'Italie en 1861. Établi par les accords du Latran en 1929, c'est une nation indépendante avec un chef d'état, le pape, un gouvernement et une armée, disons, d'opérettes, les fameux gardes suisses, habillés de bleu nuit et jaune vif, avec leurs pantalons bouffants et leurs casques à aigrettes.
Eh ben c'est très joli, c'était donc une tenue qui a été dessinée par Michel-Ange, il faut ne pas oublier.
Les liens entre le Vatican et Rome remontent au 1er siècle de notre ère, lorsque Saint-Pierre fut crucifié la tête en bas dans le cirque de Néron, à l'emplacement actuel de la place Saint-Pierre.
Alors que devons-nous savoir ou connaître encore de cette belle place ?
C'est le Bernin qui édifia en 1612 la célèbre place circulaire à colonnade. Sur la vaste façade dominent 13 statues, le Christ, Saint Jean-Baptiste et les 11 apôtres.
Plus, il y a environ 140 statues de différents saints. Hein ?
Oui.
Alors maintenant, entrons peut-être dans l'extraordinaire basilique Saint-Pierre.
Oui.
Avoir touché le genou du Christ.
Exact. Peut-être pas par la porte sainte, car elle n'est ouverte que tous les 25 ans.
Voilà.
Mais entrons quand même. Et aucune église de Rome n'arrive à la cheville de Saint-Pierre. C'est la plus grande, la plus opulente, la plus somptueuse d'Italie. Une première basilique fut édifiée au IVe siècle, sous Constantin, mais elle tombait en ruine. En 1506, le pape Jules II entreprend la construction d'une nouvelle basilique aux dimensions impressionnantes. 187 mètres de long, 22 000 mètres carrés de superficie.
De marbre, c'est magnifique. Hein.
Magnifique. Sa coupole est dessinée par Michel-Ange et culmine à 136 mètres 50. Par sa taille, elle est la deuxième église du monde.
Bon
ben oui. Après la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, qui est en fait une copie de Saint-Pierre.
Bon, la prochaine fois, on ira à Yamoussoukro, alors. Bon, je reviens à Saint-Pierre. Le sol est vraiment superbe, magnifique, et les différentes basiliques du monde y sont reproduites. Quand vous y allez, cherchez le basilique qui vous concerne, vous serez très étonné de les retrouver là. Quels sont les chefs-d'œuvre à y découvrir ?
Alors, bien sûr, la Pietà de Michel-Ange, qui est mondialement connue. Également, le baldaquin en bronze au-dessus de l'autel, là où fut enterré Saint-Pierre. Et le trône de Saint-Pierre, une œuvre du Bernin en bronze doré.
Alors, il faut savoir que sous le baldaquin, il y a la crypte qu'il faut palper, il faut visiter absolument.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on y trouve, au fait, dans les cryptes des corps, j'imagine.
On trouve bien sûr les tombeaux de saints, de papes et d'empereurs.
D'accord.
On ne sait pas sans doute que trois femmes sont aussi enterrées dans la crypte, dont Christine de Suède, qui n'avait pas la réputation d'être une sainte. mais elle abdiqua du trône de Suède pour se convertir au catholicisme en 1655. Elle vécut ensuite à Rome, où elle se montra une très généreuse mécène, ce qui lui valut les faveurs du Vatican, pour qui elle devint le symbole de conversion le plus célèbre d'Europe.
Et on y trouve aussi, n'oublions pas, le pape Jean-Paul II.
Bien sûr.
Et maintenant, allons voir le fameux musée du Vatican, qui sera certainement une expérience palpitante et inoubliable.
Ne dit-on pas qu'il faudrait 12 ans pour tout voir, en passant une minute devant chaque œuvre? On n'a pas le temps. La pièce maîtresse est la chapelle Sixtine. Elle doit son nom au pape Sixte IV. Elle est construite entre 1473 et 1484 et décorée par les plus grands artistes, le Pérugin, Botticelli, Ghirlandaio. On y trouve deux des plus célèbres œuvres d'art au monde, réalisées par Michel-Ange au XVIe siècle. La fresque du Jugement dernier au-dessus de l'autel, ainsi que les superbes fresques de la voûte, 800 mètres carrés, peintes entre 1508 et 1512, qui illustrent 9 épisodes du livre de la Genèse. La plus célèbre, bien sûr, c'est la création d'Adam, où l'on voit Dieu pointer le doigt sur Adam, lui donnant ainsi vie. Ces fresques sont éclatantes de couleurs, surtout depuis leur dernière restauration.
Oui, par des mécènes japonais. Hein. C'est dans la chapelle Sixtine que se réunit le conclave pour élire un nouveau pape. De la place Saint-Pierre, on observe et on attend la fumée, d'abord noire, puis blanche, lorsque le choix est fait.
Habemus papam.
Voilà, c'est annoncé.
Le nouveau pape s'adresse alors à la foule massée sur la place.
Il y a bien sûr beaucoup d'autres musées à Rome, mais...
impossible de les citer tous. S'il ne fallait en visiter qu'un, rendez-vous à la Galerie Borghese, la reine des collections de l'art baroque et de la Renaissance. Le Caravage, Bernin, Botticelli, Raphaël vous y attendent. De plus, le parc de la Villa Borghese, on le surnomme le Central Park de Rome, est le plus beau de la ville, un vrai oasis de verdure.
Et il ne faut pas oublier non plus la Villa Médicis, la Piazza del Popolo, etc. etc.
Et tant d'autres choses.
Et malheureusement, on ne peut pas faire plus.
Mais
hein.
Oui, au terme de cette balade à Rome, qui est loin d'être exhaustive, ne manquons pas, Elisabeth, d'aller jeter une pièce dans la fontaine de Trevi pour revenir un jour dans la ville éternelle.
Ou deux, ou même trois, pourquoi pas.
Au revoir, Rome.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une prochaine émission Capital sur les ondes de Radio Grand Ciel. Alors, arrivederci.
Arrivederci, Roma.